101.5 FM.
You out of earth.
Sur Radio G, tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de Radio G. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle heure de sport sur Radio G. On est ensemble de 20h jusqu'à 21h pour parler de toute l'actualité sportive locale surtout, mais aussi un petit peu internationale. Aujourd'hui, émission très chargée, on a beaucoup de sujets à aborder. Avec moi, donc l'équipe habituelle est toujours présente, Faustin, micro bleu à ma gauche. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde, ça va très bien.
Ça a encore gagné ce week-end?
Oui, encore gagné. On s'est remis de la défaite de la semaine dernière.
Ah oui, c'est vrai, vous avez perdu. Ouais. Et du coup, vous êtes rattrapé. Un petit hommage, entre guillemets, à l'équipe féminine de ton club, donc l'AS Avrier Basket. Voilà, l'équipe féminine qui joue en N2, qui a assuré son maintien ce week-end. Bon, j'y étais, du coup, voilà, je peux en parler. En tout cas, voilà, c'est un bon maintien pour les joueuses de Cosset. On est donc aussi avec Cédric. qui était là donc la semaine dernière et qui est toujours là avec nous. Salut Cédric, comment ça va?
Eh ben écoute, remis de ce week-end.
Encore un week-end chargé pour toi.
Ah, chargé, ouais. On peut dire même limite marathon, parce que samedi, j'ai quasiment fait une journée de 24 heures.
Ah oui, donc oui, ça ne rigole pas.
Bah non, il y avait l'Angie Geek Fest, donc debout à 7 heures, le temps d'y aller, le temps de faire un coup de main sur le stand pour installer, le temps de bien profiter de toute la journée, le soir, bah, quand tu retrouves des gens qui t'as streamé pour des événements caritatifs, forcément.
Oui.
Le soir, tu sors un peu. On a enchaîné sur la première nuit de WrestleMania.
Oui, c'est vrai, tu en avais parlé la semaine dernière.
Ouais, qui a été un peu fatale, puisque je me suis endormi.
Ah oui, devant, oui, carrément.
Ouais. La fatigue était là. Et puis, bah, le lendemain, on y est retourné, faire un petit tour. Puis, bah, tu vois, pareil, nuit 2 de WrestleMania.
Encore.
Le lundi, ça a été plus calme, heureusement, mais il y avait l'Euro de l'après-WrestleMania.
Okay.
Qui est censé être à chaque fois l'Euro le plus important et qui était merdique cette année.
Ah, d'accord, au moins, ouais, non, tu parce dis que les termes.
Il y a eu beaucoup d'activités, on en parlera peut-être dans une émission un peu spéciale quand on partira sur des dossiers, des choses comme ça, mais ça a bien bougé ce week-end. La WWE fait partie de la même compagnie que l'UFC.
Ok. Ah oui, donc c'est des gros changements, quoi.
Ouais, c'est des gros millions.
En tout cas, voilà, donc le Angie Geek Fest s'est bien passé.
Le stand Akita était bien content. Ils ont pas mal récolté encore d'argent pour aider le l'avancement de leur projet. Pour Radio G, je pense que ça s'est bien passé. Il y a eu pas mal d'émissions d'enregistrées.
Il y avait Imaginaire,
voilà, notamment. Imaginaire qui seront juste après nous ce soir.
Ah oui, c'est ça, oui, oui c'est ça, juste ça, après nous.
Sauf s'ils sont fatigués aussi, mais en tout cas, voilà, qu'on animait pas mal de choses, qu'il y avait un petit stand de bien sympathie.
Ouais, ok.
Il y a eu du passage, je pense, ouais, parce que comme on l'avait dit, le stand Radio G était vraiment dans l'entrée, donc on pouvait pas le rater. Enfin,
c'était l'avantage. T'as pu parler un peu au micro?
Non, moi je suis plus intervenu sur Twitch.
Ok.
En fait, je suis allé chez l'Anjou Popcorner deux fois pour parler un peu de la première journée, de la deuxième journée, puis faire un bilan un peu du salon.
Ça marche, mais en tout cas, voilà, effectivement, c'est vrai que c'est toujours un événement particulier pour les Angevins. Aujourd'hui, donc, c'était une émission avec des invités. Et oui, non pas un seul, mais deux invités qui sont avec nous. C'est deux représentants du PUC Angevin. Vous savez, donc, le fameux COP des Ducs d'Angers qu'on retrouve notamment à l'Esparc et parfois même à l'extérieur.
En tribune A.
En tribune A.
Oui.
Ok, tu connais par cœur.
Ouais.
Donc Philippe et Alexis sont avec nous aujourd'hui. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Donc voilà, on va revenir plus tard avec vous donc sur la saison à la fois donc au niveau par le biais du COP, mais aussi évidemment par la saison sportive des Ducs d'Angers qui s'est malheureusement donc terminée. C'était vendredi, c'est ça, ouais,
c'est ça. Ah, c'est ça, c'était vendredi.
Vendredi. Donc,
oui, il y avait ceci que j'ai regardé.
Oui, évidemment.
D'un œil aussi. Un peu attristé.
Oui, c'est effectivement, c'est toujours quelque chose de décevant. Mais en tout cas, voilà, on reviendra un peu là-dessus. Et puis, évidemment, comme vous en avez l'habitude, le reste des actus, Faustin qui nous parlera de basket avec des clubs du Maine-et-Loire qui n'ont pas été très brillants ce week-end. Et surtout, un gros rendez-vous pour Cholet demain, c'est ça?
Exactement.
Donc voilà, tu nous en reparleras. Donc voilà, on va sans plus tarder commencer par les actualités locales avec le SCO. Depuis la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'actualités concernant le SCO. Et une fois n'est pas coutume, ces actualités concernent l'extra sportif. En effet, la nouvelle est tombée sur les coups de 11h mercredi dernier et a fait l'objet d'une bombe. Saïd Chaban, président du club depuis 2011, a démissionné de son poste pour laisser son fils Romain reprendre la main. Mais dans les faits, c'est bien Teddy Nicolas Kefalas qui devra gérer le club puisque ce dernier a été nommé président délégué. Alors c'est un ancien entrepreneur passé notamment par Le Mans. Il s'attellera à la difficile mission de faire remonter donc le club en Ligue 1 dans les années à venir. Mais comme les infos autour de Saïd Chaban ne s'arrêtent jamais, on a appris aujourd'hui que le désormais ex-président du SCO a été placé en garde à vue par la police judiciaire de Nanterre ce matin dans le cadre de deux affaires de blanchiment en bande organisée et d'exercice illégal d'agents de joueurs. Voilà qui n'a donc pas fini de faire du bruit. Et on rappelle que Chaban reste propriétaire du club à hauteur d'environ 99%. Alors Cédric Faustin, comment vous avez réagi? Je vais revenir sur l'info ultérieure. Comment vous avez réagi quand vous avez appris le départ de Saïd Chaban à la tête du SCO?
Bah, écoute, moi, je vais te faire une réaction générale, parce que de toute façon, tout est lié. Hein.
Ouais.
Ouais, voilà, quand tu m'avais envoyé le message le matin là, pour annoncer ça, moi direct je t'ai dit ouais, s'il part c'est que ça sent l'affaire judiciaire qui arrive. Ouais. On savait qu'il était pas loin de son premier jugement pour harcèlement.
Ouais, ça arrivera en juin dernier, voilà, en juin prochain.
En juin prochain, donc ça pouvait correspondre dans le timing, mais on était loin de savoir, enfin, de sentir cette affaire de,
ouais,
de corruption, enfin. On savait que c'était dans les tuyaux.
Ouais, il y avait
déjà eu des perquisitions, des pré-enquêtes, tout ça. Enfin, on savait qu'il y avait des gens, voilà, qui avaient gravité autour du club, qui n'étaient pas forcément très nets. Enfin, voilà. Et finalement, ben, on comprend mieux pourquoi il lâche le pouvoir.
Ouais.
Le pouvoir, encore, il lâche, entre parenthèses.
Lâché à moitié.
Voilà, c'est son fils. Je connais pas.
Et donc, il reste propriétaire, surtout.
Voilà. On peut pas, voilà, puis j'ai pas jugé, je sais pas si son fils a travaillé avec lui sur le projet SCO, en arrière-plan ou pas. Ouais, ouais. Donc pour l'instant, je vais laisser le bénéfice du doute. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est la personne qui a été recrutée pour essayer de sauver les SCO. On sait que c'est un petit peu la personne qui a envoyé aussi le Mans et d'autres clubs, enfin, vers le bas.
Ouais.
Ça. Plus, donc, du coup, cette affaire de détournement de fonds.
On n'en a pas fini, quoi.
On n'en a pas fini. Ça fait très peur.
Ouais.
Clairement, pour l'avenir du club. Apparemment, plus, dans la semaine, il y a eu des rumeurs comme quoi les comptes du SCO seraient pas si nickel que ça. Il manquerait pas mal d'argent. Donc, là, le fantôme un peu de la nationale, je pense qu'il est toujours là, hein, pour l'instant.
La dégradation.
Ouais, ouais. Et puis, bon, il y a un moment, enfin, je sais pas, enfin, ça retombe sur la ville.
Ouais, oui.
C'est un peu dommage. Ça dégrade l'image de la ville d'Angers.
Ouais.
Du sport en juin. Enfin, c'est. À un moment, s'ils aiment réellement le club, bah, qu'ils le quittent complètement et puis, qu'on repart sur de bonnes bases pour tout le monde, quoi.
Toi, Faustin, rapidement sur la démission de Chabanne, t'en penses quoi?
On sentait quand même qu'il démissionnait, mais il lâchait pas tout à fait l'affaire non plus. C'est pas en mode il démissionne pour laisser ça à quelqu'un d'autre qui va essayer de faire mieux que lui pour sauver le club, quoi. On sentait que c'était il partait pour peut-être revenir plus tard ou en tout cas pour y toucher encore de près ou de loin, quoi.
Ok. Justement, pour revenir sur le rectangle vert, pardon, les joueurs du SCO jouaient dimanche face à Nice, équipe qui vise l'Europe en cette fin de saison. Menés rapidement après la réalisation de Terem Moffi, c'est Ibrahim Agnan qui a inscrit son premier but sous les couleurs angevines pour revenir égaliser. Score final 1-1, les SCOistes décrochent leur premier point depuis le 12 février avant de recevoir Lille 5e samedi prochain à Raymond Coppa. On va enchaîner maintenant, on le disait, sur le basket, Faustin, avec donc nos trois clubs, l'UFA, Bleu AB et Cholet Basket, qui ont tous perdu ce week-end en tout cas.
Oui, je vais démarrer par le AB qui sont les premiers à avoir perdu. C'était contre Orléans sur le score de 98-78. Les Angevins restent 10e au classement de Pro B. Ils joueront vendredi contre Quimper à 20h. Maintenant l'UFAB qui ont donc comme tu l'as dit elle aussi perdu, c'était contre Toulouse 81-72, une défaite qui aurait pu être évitée car ce n'est que la 4e victoire des Toulousaines cette saison. Les Angevines restent hors du play-down en étant 6e, mais elles recevront samedi Villeneuve-d'Ascq à 20h, ce qui risque de ne pas être un match facile. Maintenant, les Choletais qui ont eux enchaîné deux défaites cette semaine. La première en demi-finale de Coupe de France, j'ai marqué, mais c'est pas ça, c'est de Coupe d'Europe, contre Kalev, 80-73. Le match retour a lieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est demain à 20h à la Meilleraie pour viser une qualification en finale.
Ouais, on espère que Cholet saura se défaire de ce club estonien, donc voilà, on leur souhaite évidemment bien du succès. On va enchaîner avec deux autres équipes qui nous intéressent. En handball, le SCO se rapproche toujours du titre de National 1 Elite et d'une remontée surtout en Pro League. Ce week-end, les Angevins ont dû se contenter d'un match nul sur le parquet de l'Anester. Malgré un bon premier quart d'heure, les joueurs d'Issamtège ont dû principalement courir après le score sur l'ensemble du match. Les Noirs et Blancs sont parvenus à égaliser à 8 secondes de la fin grâce au but d'Ashraf Saafi pour décrocher ce nul. donc 28-28. À 5 journées de la fin du championnat, les Scoïstes possèdent 7 points d'avance sur leur dauphin Mulhouse, qu'ils affronteront d'ailleurs la semaine prochaine à la salle du Hara. De quoi s'assurer, en cas de succès, une place en deuxième division. Enfin, on va parler un petit peu de Sco Rugby. La fin de saison approche, mais les enjeux restent grands à tous les étages pour le club d'Ovalie Angevin, pour l'équipe masculine, après une défaite lors de la dernière journée contre la Roche-sur-Yon. Les Angevins vont devoir donc se confronter au barrage avant de rejoindre la phase finale de Fédéral 3. Et pour les féminines, elles ont disposé largement du Havre ce week-end 34-5 dans le cadre des barrages de Fédéral 2 et seront bien au rendez-vous des demi-finales. Le gros dossier de la semaine en sport local, c'est cette élimination des Ducs d'Angers en demi-finale de Ligue Magnus contre les Dragons de Rouen, alors qu'on s'était quitté mardi soir lorsqu'on s'était quitté mardi soir, les Angevins étaient parvenus à revenir à 2-2 dans la série et pouvaient reprendre l'avantage le mercredi soir, notamment à la patinoire de Lille-Lacroix. Malheureusement, ce sont les Rouennais qui, au bout du suspense, l'ont emporté en prolongation 4-3. Vendredi soir, à l'Ice Park, c'était le match de la dernière chance pour les Ducs, mais à décision, fusant sa pelle avec un succès 3-0 des Normands, mettant donc un terme à la saison angevine. On est donc avec deux représentants du PUC Angevin, donc je l'ai dit, Philippe et Alexis, donc membres du COP, qui accompagnent les Ducs d'Angers dans les tribunes tout au long de la saison. Alors donc, pour rappeler un peu aux auditeurs, vous avez organisé notamment des événements tout au long de l'année, pour notamment aussi les matchs à l'extérieur, avec des soirées spéciales au Delirium, en plus de votre présence et du bruit que vous faites à la patinoire de l'Ice Park. Plus globalement, avant de revenir sur Sportif, pour votre association, parce qu'on vous avait reçu l'année dernière, comment s'est passée la saison ?
Alors, on est une jeune association, on s'est créé en novembre 2021, donc l'année dernière, quand on a été reçu ici, on avait à peine 6-7 mois d'existence. Maintenant, on a une saison complète réalisé. On a pris nos marques, on a changé de tribune. On était en tribune C l'an dernier, on est passé en tribune A cette saison. Ça s'est plutôt bien passé. Donc on a du monde qui nous suit régulièrement à la tribune A ou sur les réseaux sociaux. On a quand même des followers qui sont assez nombreux sur la page Facebook du groupe supporter des Ducs d'Angers. Près de 1800, voilà. Et donc c'est vrai que ça bouge, les gens réagissent, répondent maintenant à nos sollicitations, et ça fait du monde qui vient avec nous aussi dans les déplacements que l'on a organisés pour ces playoffs. On est allé à Bordeaux notamment, Alexis est allé à Rouen aussi. Donc voilà, donc il y a un entrain qui s'est mis en route, et voilà, ça marche. Et c'est vrai que à l'Ice Park, le PUC Angevin se démarque par le fait que ça chante de la première à la 60e minute, si le match s'arrête à la 60e minute. Sinon, on continue.
Eh bien, évidemment.
Et même avant, je dirais.
Oui, bah oui, on compte. Oui. Le warm-up et tout ça, on est là comme il faut.
Ouais. Justement, vous avez eu de nouveaux membres qui vous ont rejoint cette saison?
Alors, à côté de moi, Alexis, on est il est arrivé à l'Assemblée Générale l'année dernière, donc avec, ses parents qui ont rejoint. Donc, Alexis a commencé à suivre avec nous les Ducs. Dès le mois d'août, on était à la Summer Cup qui se passait à Cergy, où il y avait des matchs entre Angers, Amiens, Cergy, Rouen.
Les 19 et 21 août.
Voilà. Et donc, il a commencé à suivre, et depuis, il n'arrête plus, quoi. Donc, c'est lui, le fameux batteur, qui fait du bruit partout, qui enchaîne avec Stéphanie, qui est au mégaphone, donc notre capot, et qui fait du bruit tout le temps.
Ouais, t'as pas mal au bras à force de...
Alors, je vous avoue que ça peut tirer. Par exemple, pendant la Summer Cup, c'était la première fois que je tapais un petit peu officiellement. J'avais pas forcément de protection, alors il a fallu aller le lendemain au Leclerc qui était juste en face pour aller chercher des straps ou des gants, parce que les ampoules se multipliaient. Mais c'est vrai qu'avec le temps, en fait, c'est comme du sport, on s'y habitue. Il y a juste pendant les Coupes d'Europe, par exemple, où les trois matchs s'enchaînaient en trois jours. Là, les 60 minutes des trois matchs, surtout pour le dernier match, je les ai sentis passer.
Ouais. Et du coup, au total, vous êtes à peu près combien ?
Alors, en termes d'adhérents, on est une cinquantaine.
Ok.
On a aussi des partenaires qui nous suivent maintenant régulièrement. On est en train de partir sur la phase pour la saison 2023-2024. Donc, il y a des des partenaires qui nous ont rejoints l'an dernier et qui vont confirmer cette année. Donc c'est aussi le signe que voilà, ça, ce qu'on fait plaît, leur plaît en tout cas, en termes de visibilité qu'on peut apporter à la patinoire, tout comme dans les visuels Alexis c'est le communicant, c'est lui qui crée les visuels. Je participe avec lui sur la rédaction des textes, mais c'est lui qui fait tous les visuels par rapport à l'annonce des matchs, aux résultats, etc.
Ouais, puis ça a permis aussi de rajouter des couleurs dans l'Ice Park, ne serait-ce qu'avec la nouvelle bâche.
Oui.
Il y a eu le tifo géant, enfin le maillot géant, enfin il y a eu
de la Conti Cup, effectivement.
Voilà, enfin il y a eu plein de petites choses comme ça qu'on puisse réaliser grâce à tous ces partenaires.
Exactement.
Ouais. Et du coup, par rapport à l'ambiance générale dans l'Ice Park, parfois, la dernière, vous nous avez dit, c'est parfois un peu calme, sans injurier évidemment l'autre COP dont les Raptors, c'est ça. Comment ça a évolué cette saison? Est-ce que c'est resté bien?
Nous, on lance au maximum les chants, les acclamations, etc. Donc, faut qu'on soit suivi. Donc, sur les tribunes qui sont proches de nous, donc la B et la P, ça commence à venir. Sur certains chants, certaines acclamations, on sent que le public aussi continue à applaudir, effectivement, ou chante, ou tape des pieds. On a besoin aussi du speaker, hein, donc Thierry Moreau, pour aussi nous aider, effectivement. Et quand on veut faire partir des Ola, on a besoin aussi de son soutien. Ouais. Mais c'est vrai que, comme ça avait été écrit il y a un an et demi maintenant, à Angers, c'est difficile de faire partir, quoi. Donc c'est plutôt des spectateurs que des supporters, quoi. Donc, on est en train de faire changer un peu les choses, mais bon, on n'est pas à Rouen où ils sont en train de chanter pendant 60 minutes, c'est la folie, quoi. Donc mais ça, on commence à marquer notre empreinte et ça va continuer de bouger.
Sachant que cette année le COP comptait sur de nouveaux chants, parce que c'est vrai qu'à l'Ice Park, durant l'histoire, d'ailleurs des Raptors, le Hara, où il n'y avait pas trop de vrais chants, c'était beaucoup d'acclamations pour pousser les joueurs à la victoire. Et c'est vrai que le Puck a cette année signé beaucoup de chants, beaucoup d'envie à vouloir faire évoluer l'ambiance qui peut y avoir du coup dans notre nouvelle arène, l'Ice Park, qui maintenant n'est plus trop nouvelle, mais.
Ça permet.
Alors une anecdote par rapport aux chants, parce que ça nous a un peu étonné quand on était invité aux 40 ans des Ducs, donc ça se passait au Grenier Saint-Jean, et donc à un moment donné, donc Julien Albert, qui est le référent, qui est un peu l'entremetteur entre le club et puis les clubs de supporters, est venu voir Stéphanie, donc Célier, notre présidente, en lui disant: Stéphanie, dans 5 minutes, t'es sur scène. Donc elle était un peu bon, il y avait aussi Michel Marchais, le président des Raptors, et donc c'est Michael Jury qui fait l'emprendation des deux clubs. Bon, il a commencé par les Raptors qui sont historiquement arrivés les premiers, mais pas grand chose à dire, Michel, et donc il a passé le micro à Stéphanie qui a commencé. Elle est partie avec son entrain habituel en disant: mais c'est moi que vous entendez pendant 60 minutes avec les chants. Et justement, le Michael Jury a rebondi sur le chant, l'un des chants du Puck Angevin, pour dire que ah oui, c'est ça qui trotte dans la tête, alors à la fois des partenaires, à la fois des joueurs, et les joueurs, c'est là qu'on l'a appris, reprennent l'un des chants du Puck dans les vestiaires, dans les salles de musculation, et donc au Grenier Saint-Jean, l'ensemble des gens qui étaient là avec nous ont repris le chant, parce que nous l'avons entonné. Alexis est venu taper dans les mains, il a pas sa batterie, mais il s'est reparti. Et on n'a pas mis le feu au Grenier Saint-Jean, ça valait mieux parce que c'est tellement joli. Mais voilà, c'était sympa. Donc voilà, une preuve qu'effectivement on a fait changer quelque chose. Ouais. Il faut continuer, quoi. On est dans le bon chemin.
Mais justement, la disposition un peu en U maintenant, est-ce que ça a pas aidé Est-ce que ça se propage un peu mieux, puisque du coup. Ça part sur la droite.
Oui.
On va dire, ça arrive dans la zone, sur la gauche, ça arrive dans la zone partenaire des Ducs.
Ce qui a surtout changé par rapport à tribune C, c'est qu'avant, dans la tribune C, on descendait quasiment jusqu'à la coursive. Et on avait le plexiglas qui faisait écran au chant chant et aux batteries que l'on pouvait faire. Là, dans la tribune A, on est plus en hauteur, on est au-dessus du plexi, on est sur les filets, et donc tous les chants partent plus vite et plus loin.
Oui, en fait, pour les gens qui connaissent un peu la patinoire, c'est vraiment la sortie pour la...
Les surfaceuses.
Les surfaceuses,
ouais, on est
où? C'est ça. Moi, j'ai trouvé que du coup, ça se propageait mieux, et ne serait-ce que, si l'autre COP veut reprendre ou relancer, en fait, c'est une onde qui se propage de chaque côté.
C'est ça.
Et je trouve que, même en termes d'entrain, les partenaires... vraiment du club, généralement, on les voyait pas trop en train dans les dans les premières mi-temps, deuxième mi-temps, troisième tiers-temps, ça commençait des fois un peu bouger. Là, j'ai l'impression que ça part un peu plus naturellement aussi de ce côté-là.
Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que les Raptors, donc eux, travaillent plutôt sur la percussion. Ils ont plusieurs percussionnistes, et donc on essaie nous de s'accorder avec eux pour faire un écho entre leur tribune et la nôtre, et donc faire aussi du bruit comme ça qui s'enchevêtre au niveau de la patinoire.
Ouais. Alexis, toi, donc c'est ta première année. Est-ce que c'est ta première année dans un COP? En général?
Ouais, c'est ça. Ouais.
T'as quel âge à peu près?
J'ai 16 ans.
Ok, t'as 16 ans. Donc, j'imagine que c'est particulier pour toi. Qu'est-ce que justement tu tires, titre personnel, de vivre cette première expérience?
Dans le COP? C'est vrai que je suis arrivé un petit peu grâce à mes parents qui se sont rapprochés du PUC lors des playoffs l'an dernier, donc contre Rouen également. Et c'est vrai que étant allé à l'AG, en arrivant un petit peu dans l'association, j'ai réalisé le premier déplacement du coup à Cergy. C'est vrai que dans ma vie, j'ai pas beaucoup fait de déplacements, et là à Cergy, c'était déjà l'un des premiers. Donc Cergy du coup à côté de Paris, c'est quand même un petit déplacement, et puis après ça s'est enchaîné avec d'autres. C'était 3 jours à Cergy, surtout 3 jours sans les parents aussi à souligner, parce que en même temps je suis devenu tonton, donc j'ai fait quand même le choix de partir. C'est vrai que le PUC a beaucoup changé un petit peu mon train de vie, parce que depuis du coup décembre janvier dernier, j'ai rejoint le bureau de l'association en tant que responsable communication, animation dans la patinoire, donc les chants. Et c'est vrai que le fait, par exemple, le matin se lever, de faire les visuels pour lancer le match, pour donner envie aux gens de vouloir venir dans notre arène, c'est vrai que c'est quelque chose que je pensais vraiment pas. On m'aurait dit il y a un an, Alexis, tu fais les visuels du PUC, avec d'ailleurs Philippe qui écrit les textes tous les matins, tu lui envoies le texte pour qu'il te répond. Je pense que je l'aurais jamais cru.
Sur cette année. Cédric, est-ce que tu as des questions à poser à nos invités, toi qui a parfois fait partie un peu de ce PUC?
Plus que parfois, oui, sur la Coupe d'Europe notamment. Voilà. Et puis l'année dernière sur pas mal de phases, mais ce qui fait plaisir, c'est que ça fonctionne. Qu'il y a des bons échos, en tout cas. Sur les réseaux, il n'y a jamais eu trop de petits soucis vis-à-vis de ça, des gens qui se plaindraient que il y a trop de bruit ou que c'est trop trop campé, enfin des choses comme ça. Ça a l'air de plaire quand même au public, malgré ils sont peut-être pas encore prêts pour adhérer forcément, mais en tout cas ça a l'air de suivre. Puis faut que le chemin se fasse naturellement aussi. Ces premières années, on va dire, vraiment pleines, qui a l'air d'être plutôt un bon bilan. Malgré une saison qui a pu être forcément difficile par moments, euphorique par d'autres, donc je pense que sur ce point de vue là le bilan est plus que positif. Et après maintenant il y a du temps, mais ça va arriver très vite. Maintenant c'est préparer la nouvelle saison. Le plus dur, ça va être peut-être de se renouveler, de nouvelles choses, d'où l'intérêt peut-être d'avoir aussi des nouveaux membres.
Alors, je vais ajouter une chose, Romanier, parce que tu parlais à la Conti Cup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, alors que franchement, c'était quand même deux grands événements en octobre pour les quarts de finale, puis après la finale à Angers. Je veux dire que là aussi, donc le PUC est à l'origine de certaines choses, mais on a eu la chance aussi d'avoir une collaboration, un rapprochement avec le club, donc des Ducs, notamment Julien Albert. Faut dire que il fait l'entremise un petit peu à tout ça. Il y a eu des réunions qui se sont tenues en octobre et puis en janvier pour justement préparer la manière dont allait se passer ces séries de deux fois trois matchs, donc pour que Thierry Moreau, les Ducs, le PUC, les Raptors puissent travailler ensemble de concert et de manière à ce qu'on fasse bouger ensemble cette arène de 3600 places, presque 3600 places. Ouais. C'est quand même quelque chose. Le Hara, c'était bien, c'est très joli. Avec la salle de handball, c'est magnifique pour eux maintenant. Mais c'est vrai que c'était que 800 à 1000 places, quoi. Donc là, il faut bouger cette arène, et c'est vrai que là, on a fait des choses et on continue de construire. On arrive avec des idées, des propositions, et les Ducs sont plutôt à l'écoute de ce qui se passe par rapport à ça.
Puis ce qui se passe aussi, c'est ce qui s'est fait aussi naturellement, c'est des rapprochements avec notamment les supporters de Cardiff, qui ont accueilli les Angevins, mais comme des rois, c'était pour les demi-finales. Et qui ont fait le déplacement après à l'Ice Park pour les finales. Et en tout cas, qui avaient l'air d'être ravis de leur voyage, quoi.
Mais c'est là qu'on voit la différence. Quand on voyait que ce soit les Italiens, les Gallois, ou, alors je sais plus comment, quel était le pays, Nitra, dans quel pays c'est.
Mais c'est vrai qu'il
y avait une, voilà, Slovaquie. Il y a une ambiance, une atmosphère de supporters qu'on n'a pas encore à Angers.
Ouais.
Voilà.
À souligner que le jeudi soir, les supporters français angevins se sont réunis avec les autres supporters parce qu'il y avait une petite réunion qui avait été organisée dans un bar à Foch. Et c'est vrai qu'on a eu déjà des premiers contacts franchement vraiment positifs entre tous les supporters, que ce soit les Italiens, les Slovaques et puis les Gallois. Et c'est vrai que c'était des liens vraiment des expériences humaines, en fait. Enfin, ouais.
C'est assez génial, toujours, ces moments-là.
J'aime bien, au moins, t'as pas voulu citer, mais t'avais le droit, parce qu'on citera un troisième bar, c'est pas grave. C'était,
au Matt Murphy,
ouais. Voilà, qui est aussi un lieu historique pour le hockey en juin. Voilà, il y a tous ces maillots. Et voilà, il y a un autre l'année prochaine pour les emmener au Big Wood, qui est un pub irlandais. S'il y a des clubs irlandais, ils seront pas perdus comme ça.
Mais on n'a pas la Quantic Cup l'an prochain.
Oui, mais ouais, malheureusement, il manque la qualif européenne.
Oui, mais fallait trouver un placement pour mettre le 3.
Ah, c'est ça. C'est ça.
Tu parles du Mad Mercy, parce que historiquement, c'est quand même le bar-restaurant, donc des Ducs, hein, donc, voire des Raptors. Nous, on a choisi un autre QG, donc qui s'appelle le Derium Café, parce qu'il est plus proche de l'Ice Park. Ouais. Donc, d'un coup de tram, c'est facile. C'est aussi un bar qui est assez animé au niveau des étudiants. Et donc, on a choisi ça. C'est vrai qu'on a organisé avec JB, qui est le gérant. Oui, il est grand. Et puis, on a la possibilité de faire les diffusions des matchs extérieurs. Donc, on a vu les matchs de play-off sur Fansit, les deux fois où les Ducs étaient à Rouen, quoi. Et il y a de l'ambiance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, qu'on a découvert, même des jeunes, qu'on a retrouvés après la patinoire en disant, bah ouais, puis ils nous disent, bah voilà, l'année prochaine, ça se passe comment? Moi, je suis prêt à venir, etc., quoi.
Ça devait être vraiment sympa comme expérience. Ça remet un peu justement ça fait vivre la ville, en fait, s'allier avec le sport. D'ailleurs, on avait fait une émission sur justement le public et le sport angevin, où on trouvait qu'effectivement, c'était pas assez encore ancré la culture supporter. On avait parlé du SCO, où c'était quand même pas la plus grande ambiance, parce que c'était pas forcément un club historique de football. Il y avait au basket, ça commence, mais c'est quand même assez léger. Toi, c'est vrai que t'avais voulu, notamment il y a quelques années de ça, lancer une espèce de COP aussi. Oui. Pour l'ABC, l'Angers Basket Club, qui est devenu maintenant l'EAB. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait un manque par rapport à ça, et on avait relayé un peu ce que vous aviez dit l'année dernière sur ce manque-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez toujours, à la fois sur le hockey et à la fois sur les autres sports, peut-être, que vous pouvez regarder?
Non, on peut parler que vraiment du hockey, mais c'est vrai que l'an dernier, lorsque le puck angevin s'est constitué, c'est à la suite d'un match qui s'était déroulé quelques semaines plus tôt à l'Ice Park, où c'était un quart de finale, je crois, de Coupe de France. Amiens, détenteur de la Coupe de France, venait à Angers pour ce match-là. Et il y avait une vingtaine d'Amiénois qui étaient venus, et Jérémy Gorget, qui est un journaliste qui travaille pour Hockey Hebdo, avait fait un papier le lendemain, disant les 20 Amiénois faisaient plus de bruit que les 3500 touristes angevins. Ah bah, ça avait calmé tout de suite. Je pense qu'au niveau du club, avait réagi.
Et puis ça les a piqués dans leur
On était quelques-uns, nous, dans l'espace. On dit, mais non, c'est pas possible, on va pas laisser faire ça. Et c'est comme ça que l'idée du puck a germé. On s'est retrouvé un dimanche avec quelques-uns dans un bar à Angers, près de la gare, et qu'après, on a enclenché la mécanique et que le puck est arrivé. Ouais. Mais on a eu du mal au départ, parce que on était un peu, les éléphants dans le magasin de porcelaine. Donc il a fallu qu'on fasse nos preuves, parce que le Raptor, c'était quand même une institution, quand même. Les Ducs savaient pas trop ce qu'on allait faire, nous, qui y sont, etc., qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc on a dû faire nos preuves, et je crois qu'on les a faites maintenant, au point, je te disais tout à l'heure, c'est que certains partenaires ont dit, c'est avec vous qu'on veut être.
Ouais, c'est ça. Et puis ça apporte aussi d'avoir un deuxième POC, et non pas parce que vous auriez pu aller vers les Raptors. Le problème, c'est que du coup ça regroupe sur un endroit, et là ça peut avec des réponses, puis avec plus de bruit, quoi.
L'avantage, c'est que voilà, chacun va y retrouver son compte. Il y en a qui seront plus qui vont avoir envie de bruit, de chant, ils vont adhérer plus facilement à ce COP-là. où ils iront plus, bah voilà, si c'est plus pour les percussions, comme ça, ils iront plus vers les Raptors. Enfin, ça permet, voilà, de, et au final, d'aider les deux.
Et les déplacements qu'on a fait, alors notamment à Sargy, parce qu'on a de bons contacts avec le club et les
la tribune K,
la tribune K. La tribune K, c'est particulier. Donc, faut imaginer la tribune comme la tribune A ou la tribune C qu'on avait avant, mais il y a pas de siège.
Ils ont démonté les sièges.
Le club de Sergi a démonté les sièges. Ils sont debout. Ah oui. Avec leur drapeau, leur bâche, etc. Et ils chantent tout le temps. Et quand on était quand même allé plusieurs fois à Sergi cette saison, c'est deux un fois. Accueil sympa. Vraiment, enfin, sans la Summer Cup, etc. Donc, un accueil très sympa. Et puis vraiment, il y a pas d'animosité, hein. Donc voilà, on est accueillis vraiment à bras. On pourrait me dire la même chose avec l'autre club de supporters de Sergi, avec qui ça se passe très bien. Ouais. On n'a pas de sujet avec Rouen non plus. Bon, la tribune 4 un peu particulière, mais on a quand même des bons rapports.
Il y a
trop de lettres. Et puis voilà, donc bon, globalement ça se passe bien. Et quand on a fait les déplacements à Tours en Coupe de France, quand on est allé à Bordeaux, quand on est allé à Cholet pour des matchs qui avaient été déplacés parce que l'Ice Park était occupé par d'autres compétitions, on est toujours très bien reçu, quoi.
Ouais. Et puis pour revenir un petit peu sur l'ambiance, c'est vrai que étant été à Rouen, qui est vraiment une ville où c'est vraiment une ville de hockey, la ferveur de hockey, enfin de pour les, enfin les Rouennais ont pour le hockey, c'est même impressionnant. Et c'est vrai que là où on prend encore une leçon du fait que Angers est une ville qui évolue du côté, enfin Angers au hockey évolue du côté de vraiment du supporter, et qu'on a vraiment une sacrée marche encore à gravir pour pouvoir faire d'Angers vraiment une des plus grandes places fortes.
C'est ça. On a encore beaucoup de progrès à faire. On va revenir un peu sur la saison sportive dans sa globalité, avec évidemment toute votre expertise. Quel bilan on doit tirer donc de cette saison des Ducs d'un point de vue sportif? On a peut-être un peu le sentiment qu'elle est un peu frustrante. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou pas du tout? Vous pensez que c'est une bonne saison?
Si on prend les bilans chiffrés ou de titres, effectivement, donc on était détenteur de la Coupe de France, on a été éliminé par Grenoble en demi-finale. Ouais. Match difficile, compliqué. Bon, on va pas redire des choses sur l'arbitrage ou le comportement des joueurs, mais c'est vrai que bon, on l'a un peu là. La Conti Cup, bah, on a fait tout ce qu'il fallait, mais bon, on a vraiment les niveaux Nitra en particulier, c'était quand même pour nous au-dessus. Moi, je pensais que Cardiff aurait été même meilleur que, puis en fin de compte, non. Mais les matchs ont été très difficiles. Ouais. À chaque fois, on a poussé, les Ducs ont poussé jusqu'en prolongation et n'ont perdu ou gagné qu'en prolongation. Donc, c'était plus de 60 minutes. Donc, et comme disait Alexis, c'est 3 jours consécutifs. Donc, voilà. Ouais. Donc, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, on est vice-champion d'Europe. C'est quand même pas rien. Ouais. Voilà, c'est pas rien. Grenoble, cette saison, allez, je fais un petit coup de canif contre Grenoble. Ils sont allés en CHL, mais bon, ils ont fait que de la figuration. Oui. Bon, ils feront peut-être mieux l'année prochaine. Ou c'est Rouen. Et après, donc effectivement, les playoffs. Donc, bah les playoffs, on est allé. Là, je crois que cette fois, Rouen nous attendait davantage que l'an dernier, où ils étaient moins fatigués. Ce qu'ils avaient l'an dernier, ils avaient fait la CHL. Ils étaient allés loin en CHL. Donc, c'était d'être plus fatigués. Là, cette saison, Angers, donc a un bilan, on peut dire mitigé, mais moi, je dirais pas tout à fait ça parce que on est quand même demi-finaliste de Ligue Magnus, vice-champion d'Europe, et on est éliminé en demi-finale à la Coupe de France. Ouais. Derrière, c'est aussi 66 matchs qui ont été réalisés par les joueurs. Ça, dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles au plan sportif. Enfin, je m'en tiens au plan sportif parce qu'effectivement, on a commencé avec un premier entraîneur qui a démissionné. Oui. Deuxième, Mario Richer est arrivé. Il a été limogé quelques mois plus tard. Le troisième est arrivé au mois de décembre pour construire quelque chose sur une Coupe d'Europe qu'il connaît, la maîtrise des clubs européens, il les connaît, parce qu'il a fait son boulot là-bas. Et c'est vrai qu'on a senti que petit à petit, il mettait une mécanique en route et que ça pouvait aboutir. Donc, il avait construit l'équipe en vue d'aller le plus loin possible. Mais là, cette saison, Rouen, sur le sixième match, il n'y a pas photo, les Ducs étaient, voilà, vannés, ils n'en pouvaient plus, et ça s'est fini comme ça, quoi.
De toute façon, enfin, moi, de mon point de vue, ce que j'avais un petit peu annoncé, c'est que le match 5 allait être décisif pour n'importe quelle équipe. Et on l'a vu, Angers avait toutes les cartes, pourtant, ils avaient 3-0, je crois, de mémoire.
Non, il y a Rouen à 2-2, et on mène 3-2, et une pénalité contre Manavion, Rouen marque le 33e but, et prolongation, et c'est là que Chakachvili marque le 4e but. Match 5.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est là qu'on voit que il y a sûrement la fatigue et enfin aussi la pression, je pense aussi qui a joué. Mais c'est vrai que c'était pas le match à perdre et je pense que derrière ça se sent le 3-0 hélas derrière. Et puis en termes de
3-0 un peu forcé parce qu'il y avait 1-0 puis après cache vide donc il marque deux fois. Ouais. Mais nous, on était prêts à se déplacer dimanche à Rouen. Ah bah oui. On était, ah, on était dans les starting blocks. On a commencé à prendre les éléments pour partir en minibus à Rouen. Donc,
ouais. Si on prend vraiment les stats par rapport à Rouen sur toute la saison, c'était aucune victoire. Donc, quelque part, on savait que ça allait être plus dur que l'année dernière où déjà c'était joué sur le match 7.
C'est ça.
Donc, on sait qu'à chaque fois, ça peut être nos bêtes noires historiquement. Donc, on n'a pas lieu de rougir du parcours par rapport à ça.
Et puis surtout, Rouen, du coup, n'avait pas de Coupe d'Europe cette année alors que Angers si. Du coup, à titre personnel, quel moment vous allez retenir de cette saison en tant que supporter? Quel moment dans la saison?
Moi, ça serait en finale de Continental Cup contre le HK Nitra où, franchement, il restait. D'ailleurs, le public angevin, c'est éteint durant le troisième tiers-temps. Le fait de perdre 2-0 au coup, enfin, ça a fait vraiment mal dans le public. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, on ne sait pas honnêtement ce qui s'est passé dans la tête des joueurs. Et ils sont revenus, il restait 2 minutes, ils perdaient 2-0 contre une équipe, HK Nitra, qui était quand même une très très grosse équipe, faut se le dire, qui d'ailleurs est champion de cette compétition. Le fait de revenir à 2-2 en 2 minutes, top chrono, c'était incroyable. Et je pense que beaucoup d'Angevins y ont laissé l'alarme parce que c'était vraiment un incroyable de pouvoir revenir comme ça dans un match aussi beau, parce qu'en soi, les deux équipes ont super bien joué, il y a eu un super match, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment un niveau d'écart, et là, de revenir comme ça dans les deux dernières minutes, c'était franchement le meilleur moment, pour moi, le meilleur moment de cette saison. Après, il y en a bien d'autres.
Hein. Oui.
Ça a été quand même une saison à rebondissement, comme pouvait le dire Philippe.
Et à beaucoup de matchs.
Ah oui.
Et à beaucoup de matchs, qui permet d'avoir beaucoup de rebondissements.
C'est ça. Voilà. Philippe?
C'est souvent renversant. La compétition des Ducs cette saison, c'était que quelquefois, donc, on subissait, et puis d'un seul coup, il y avait quelque chose qui se passait, et hop, on renversait la tendance, et derrière, on filait vers la victoire.
Ouais. Donc, c'est un peu vos moments phares, notamment, évidemment, forcément, la Coupe d'Europe. Il y a eu, notamment, cette saison, pas mal de rivalités avec Grenoble. C'est, je pense, peu de le dire, parce qu'il y a eu parfois même des comportements un peu, qui sont un peu liés au hockey, mais des fois qui dépassaient un peu les bornes. Il y a eu ça à Bordeaux, notamment en play-off, j'ai été témoin de ça. Mais,
ouais, t'as eu du pot, t'as eu ta première bagarre.
C'est ça, ouais.
Moi, j'ai toujours pas vu.
Ça a lâché les gants, ça s'est battu, mais apparemment, Grenoble, c'était même pire. Ouais. Est-ce qu'il y a une espèce de rivalité qui commence à monter entre Grenoble et Angers?
Bah, entre les joueurs, il y a des choses qui se passent vraiment, parce que donc quand pour la finale, la demi-finale de la Coupe de France, où on pousse effectivement donc jusqu'au tir au but, on échoue à ce niveau-là, et Philippe Allais qui revient donc de son tir au but et se fait quasiment agressé par les Grenoblois qui viennent, qui lui crachent dessus, qui le bouscule, qui le battent, etc. On dit bah non, c'est pas sportif quoi. Grenoble et fair play, c'est deux mots qui sont inconcevables.
Ok. Oui, c'est.
On n'a vraiment pas reconnu la mentalité de hockey. Non.
Ouais.
Parce que c'est vrai que le hockey, c'est quand même un sport, c'est l'un des sports les plus rapides, c'est un sport qui est dur.
Très physique.
Qui est très physique, et puis franchement, faut savoir répondre sur la glace. Et c'est vrai que, en fait, faut savoir que dès que c'est la fin du match, les joueurs, ils ont deux comportements totalement différents. Ils peuvent être des guerriers sur la glace et après être les meilleurs amis du monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec Rouen, parce que c'est vrai que Rouen, on peut avoir une rivalité un petit peu au niveau de la région, au niveau de la proximité, un petit peu un petit derby
historique,
c'est vrai que c'est vraiment contre Grenoble qu'il y a cette anime, que ça reste vraiment tendu chaque fin du match. Là, il y a eu du coup, en demi-finale, c'était très très chaud, qui est parti d'ailleurs en bagarre lors du salut, qui est franchement quelque chose d'assez anodin dans le hockey. Et il y a eu aussi d'autres matchs, comme par exemple le match qui a eu, c'était le deuxième match là-bas en saison régulière, où il y a eu un but, il y a eu une pénalité assez limite, qui fait que Grenoble a gagné. C'était juste après la Conti Cup, a gagné. Le match, et c'est vrai que là aussi c'était tendu parce qu'il y a eu des bagarres, il y a eu même le gardien qui est venu agresser un de nos joueurs en plein milieu de la glace. Donc c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup au hockey, en France surtout, parce qu'aux États-Unis c'est autre catégorie, mais
Ouais, mais encore, j'ai pas l'impression d'avoir vu des débordements comme ça.
Ouais, j'ai l'impression que
c'est une précédente, non.
Ça dépasse un peu Flow.
Avec Rouen, c'est physique, mais voilà. Bon, ça reste dans des proportions qu'ils ont. Et moi, je veux dire que bon, le sixième match à Angers contre Rouen, les joueurs, comme disait Alexis, se sont salués comme si ce que l'essai de, voilà, ils allaient boire un pot ensemble. Et ce qui était, moi, ce qui m'a, j'avais pas remarqué ça avant, mais il y avait quand même Jason O'Leary et Alexis Billard qui sont descendus sur la glace et qui ont fait le salut comme les joueurs.
Comme donc, les entraîneurs aussi, Rouen.
Ah oui, donc voilà, donc Fabrice Henry, etc. Alors que je suis pas certain que l'entraîneur de Grenoble fasse ça. Bon, lui, il se barre avant.
Oui, c'est ça. Il y a cette rivalité, en fait, qui est plutôt bon enfant avec Rouen, qui est plutôt sportive, en fait.
Voilà, sportive.
Et Grenoble, ça devient quelque chose de peut-être un peu plus malsain, on va dire.
Et on peut même retrouver parfois certaines conversations sur les réseaux sociaux qui peuvent partir un petit peu en live entre les supporters angevins et supporters grenoblois dû à ces débordements déjà sur la glace. Ouais. Du ça coup, provoque du répondant.
Un déplacement à Grenoble, c'est pas encore d'actualité pour le
Il y en aura l'année prochaine, mais là, on fait pas les play-offs, la finale play-off contre eux. Quoi, donc
Non, puis, j'ai l'impression que c'est pas que Angers, en fait, qui a eu le droit à ça. Ça a été sur beaucoup de matchs. Moi, j'ai eu beaucoup de. Sur les réseaux sociaux, ça en a beaucoup parlé quand même.
Si on revient sur la finale de Coupe de France, donc Gap mène 2-1 devant Grenoble. D'un seul coup, il y a deux pénalités qui sont marquées contre Gap et Grenoble mène 3-2 et gagne la Coupe de France. Donc après, il y a aussi ce qu'on peut lire. On peut plus ou moins, quand on est dans le feu de l'action, se dire, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage à ce moment-là? Parce que, effectivement, la règle de la pénalité de banc mineur, elle existe. Elle est quasiment jamais signalée, quoi. Donc, d'un seul coup, paf, Gap se trouve à 3 joueurs contre 5 grenoblois. Ouais. Ah, c'est plus facile pour Grenoble, quoi.
Non, puis après, à ce niveau-là, je pense que c'est pas forcément non plus un problème d'arbitrage. Je pense que, il y a peut-être un problème aussi au niveau de la Fédé, qui a pas l'air de vouloir trop s'intéresser à ce problème-là, qui le laisse un petit peu de côté.
Il y a des réactions. Cette année, il y a quand même des réactions. Il y aurait des stages qui seraient organisés pour les arbitres. Il y a quand même du mouvement.
Parce que me dis, les sautes d'humeur, c'est pas les arbitres, c'est.
Non.
Mais. Et faudrait peut-être être plus ferme en termes de sanctions ou.
Dans la presse locale, Jason O'Leary a fait plusieurs interviews, où il parle effectivement du problème de l'arbitrage, en disant que lui, il a coaché des équipes en Suisse, en Allemagne, voire en Italie peut-être bien aussi, où là effectivement c'est complètement différent. L'arbitrage en France, donc les gens sont pas vraiment formés, il y a pas donc effectivement derrière ça pêche.
En tout cas, merci. Alors les conversations, c'est un petit peu allongé, mais c'est pas grave parce que c'était très intéressant de vous avoir avec nous donc dans Génération Sport pour parler de toute cette saison des Ducs d'Angers. Évidemment, vous revenez quand vous voulez pour parler de du club angevin. Écoutez, on va enchaîner sans plus tarder puisqu'il nous reste 13 petites minutes et on va essayer de laisser le studio à temps pour l'équipe d'Imaginaire. Du coup, on va passer tout de suite sur le volet international avec le football, avec cette 29e journée de Ligue 1 pleine de rebondissements. L'OM n'a pas pu faire mieux que match nul vendredi soir à domicile contre Montpellier 1-1. De son côté, Lens est revenu à hauteur des Marseillais grâce à leur succès 1-0 à Rennes. Les deux clubs phocéens et artésiens sont donc revenus à 6 points des Parisiens, leaders du championnat, et les Parisiens qui ont été en grande difficulté dimanche face à Lyon. Les Lyonnais ont décroché une précieuse victoire grâce à l'unique réalisation de Bradley Barcola. Le suspense est donc peut-être relancé pour le titre. Dans les autres matchs, Auxerre a battu 3-1-0. Lille s'est défait de Lorient 3-1. Reims a balayé Nantes 3-0 à la Beaujoire. Brest a disposé de Toulouse 3-1. Clermont a enterré Ajaccio 2-1 et Monaco a dû s'employer pour vaincre Strasbourg 4-3. Alors, je voulais revenir sur le football féminin français avec notamment cette journée mouvementée qui a eu lieu jeudi dernier. Malheureusement, je sais pas si on va avoir le temps, donc je préfère notamment donner la main à Faustin sur le basket, mais voilà, pour dire rapidement, Hervé Renard a donc été nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine. Il a rappelé notamment Wendy Renard, Léa Le Garec et Eugénie Le Sommer pour les matchs qui auront lieu donc cette semaine et la semaine d'après contre la Colombie et le Canada. Et à noter aussi que les clubs français, le PSG et l'Olympique Lyonnais, ont été tous les deux sortis en Ligue des Champions par Wolfsburg et Chelsea. Faustin, on va maintenant parler de basket avec pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé à la fois donc en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis.
Exactement, et je vais démarrer par notre championnat français, car ce dimanche a eu lieu la rencontre entre les Mets et Monaco. C'est donc le derby, enfin non pas le derby, mais la rencontre choc entre le premier et le deuxième. Ça aurait pu être un tournant dans la saison si les Mets remportaient ce match. Cependant, comme vous l'avez peut-être deviné, c'est bien Monaco qui confirme sa superbe saison en l'emportant 87 à 68. On a en plus eu le droit à des très très gros highlights, avec notamment un énorme poster dunk de Johan Makundu, l'ancien Choletais, ainsi que Victor Wembanyama qui a tout simplement réussi à mettre une claquette dunk sur son propre tir, oui, à 3 points. C'est
j'ai vu ça, c'est complètement fou.
C'est du jamais vu.
Ce mec il réinvente le basket. Voilà, quoi.
C'est... Hâte de voir ce qu'il va faire en NBA la saison prochaine.
Ouais, s'il le fait en NBA, il faut le faire.
Ouais. Sinon, maintenant, l'Euroleague, 32e journée d'Euroleague. L'ASVEL continue de perdre, cette fois contre Belgrade sur le score de 76 à 60, tandis que Monaco, eux, s'impose une nouvelle fois contre Munich.
NBA.
C'est en NBA. Et puis d'abord même la March Madness dont je vous avais parlé la semaine dernière. On a eu le droit à la finale hier entre UConn qui s'est facilement débarrassé de Miami en demi-finale contre San Diego State qui eux ont gagné au buzzer en demi-finale contre Florida Atlantic. Et c'est UConn qui sort vainqueur de cette finale sur le score de 72 à 59, remportant ainsi le 5e titre de l'université. À part ça, la fin de saison NBA est très serrée, notamment à l'Ouest, où l'on a un écart de seulement 4 victoires entre le 6e, significatif de qualification directe en play-off, et le 11e, qui sera donc directement éliminé, ne jouera même pas le play-in. À la 6e place, on retrouve les Golden State Warriors, puis les Los Angeles Lakers et la New Orleans, égalité 7e et 8e, Minnesota à la 9e, Oklahoma City 10e et enfin Dallas 11e, sachant qu'il reste seulement 5 matchs à jouer pour la plupart des équipes. On connaît aussi les équipes qui sont sûres d'être qualifiées pour les playoffs, donc avec de nouveaux arrivants comme les Kings de Sacramento qui ne s'étaient pas qualifiés pour les playoffs depuis 2006.
Ah oui, ça remonte. Donc ça fait 17 ans.
Ça fait 17 ans.
Non, mais 2006, c'est ton année de naissance. Tu n'as jamais vu les Sacramento Kings en playoff de ton vivant.
On a aussi les Cavs qui ne s'étaient pas qualifiés sans LeBron James depuis 1998. Donc c'est une très belle performance de leur part. À l'Est, les candidats au play-in tournament vont se battre, car on a d'abord Miami avec 41 victoires en 7e position, suivi de Toronto et Atlanta à 39 victoires qui sont 8 et 9e. Et enfin les Bulls avec 38 victoires qui sont 10e. Je vais rappeler comment fonctionne le play-in tournament, c'est assez simple. On a d'abord un match entre le 7e et le 8e, c'est sur le terrain du 7e. Donc le gagnant se qualifie directement pour les playoffs. Le perdant jouera un deuxième match contre le vainqueur du match opposant le 9e et le 10e, et donc le vainqueur du match opposant ensuite le défaitiste du 7e contre le 8e et du vainqueur du 9e contre le 10e, oui, sera qualifié à son tour en play-off pour affronter les premiers.
Camoulox.
C'est ça. Faudrait bien comprendre tout ça, démêler. Mais en tout cas, voilà. Donc, les play-ins qui commencent dans 5 matchs.
Dans 2 semaines environ.
Ok, ça marche. Et du coup, on en a parlé la semaine dernière, mais le tank, on en est où?
Détroit est très très fort.
Détroit est très fort pour être très nul, c'est ça?
Ouais, exactement. Détroit est très très fort pour perdre des matchs. Ils sont bons derniers.
Donc on aura peut-être un duo Giannis Wembanyama.
Bon, après c'est pour la loterie, donc ça reste de la chance. Hein. On sait jamais.
Il y a la loterie.
Ouais, il y a toujours la loterie. C'est en gros plus t'es bas, plus t'as de chance d'avoir le premier pick à la loterie. Donc tu vois, genre Toronto, s'ils finissent 10e. Par hasard, Toronto.
Techniquement, ouais. Ah, tu dis ça par hasard, Toronto.
Ah, par hasard.
Pas du tout, parce que c'est ton équipe préférée.
Et ils peuvent récupérer Victor Wembanyama. Voilà.
Et là, tu serais comment que tu vas choper son maillot très rapidement, quoi. Très bien. Mais en tout cas, merci pour ce point NBA, Faustin, donc avec ses play-ins qui arrivent très bientôt du côté des États-Unis. On va terminer avec deux infos Formule 1 et cyclisme. Nouveau Grand Prix donc ce dimanche en Australie et il s'est passé des choses avec notamment l'accident provoqué par le Français Pierre Gasly qui a notamment embarqué avec lui son coéquipier chez Alpine Esteban Ocon. Dans cette course qui s'est finie un peu dans la confusion, c'est bien le champion du monde en titre Max Verstappen qui s'est imposé devant son rival Lewis Hamilton et l'Espagnol Fernando Alonso, un podium d'ancien champion du monde qui franchit la ligne donc au ralenti après un énième incident. Cédric, j'imagine que t'as pas trop pu regarder ce Grand Prix, surtout que c'était à 7h du mat.
Ouais, mais donc, alors j'ai pu suivre ça à mon réveil et
ça pique les yeux.
Je souffle.
Ouais, apparemment c'était pas
la FIA là, faut qu'ils arrêtent. Il y a le nombre de drapeaux rouges qu'il y a eu, c'était pas forcément nécessaire. Enfin, normalement, même les Alpines, même si elles sont rentrées dedans, et encore, ça va, c'est pas méchant. Un peu plus, on avait un pilote, pas qui est disqualifié, mais il perdait sa super licence, donc une course de pénalité. Sur la dernière sortie, il y a une voiture qui est dans le gravier. Techniquement, tu peux mettre virtual safety car ou drapeau jaune, ça peut passer. Enfin, ouais. Non, la FIA a encore fait des c'est le cas de le dire, des conneries avec le règlement. Enfin, il y a même eu, enfin, des débordes. Enfin, c'est les derniers tours, les spectateurs rentrent sur la piste. Enfin, il y a,
ah oui.
Ouais. Alors bon, c'est pas vraiment la FIA, mais bon. Enfin, tu vois, il y a eu ça à côté. C'est.
Ouais.
Là, le début de la saison de F1, il est catastrophique côté FIA. Côté spectacle, ça a un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça.
Ouais, parce qu'avec Verstappen qui donc va survoler cette saison encore une fois de plus.
Ouais, encore, c'est pas évident. On va voir là quand on va arriver vraiment sur les circuits en Europe. Ouais. S'il y a une grosse marge.
On suivra ça. Enfin, on termine par une info cyclisme avec le crack du circuit mondial Tadej Pogacar qui n'en finit plus de performer. Ce dimanche, le Slovène a remporté le Tour des Flandres, son quatrième monument à seulement 24 ans, après donc Liège-Bastogne-Liège en 2021 et le Tour de Lombardie en 2021 et 2022. Christophe Laporte, meilleur français de la course, place à la 14e position après avoir remporté notamment la course à travers les Flandres dans la semaine et trois jours avant, il avait également gagné sur Gand Wevelgem. Merci à tous de nous avoir donc suivis sur Radio G. Je veux aussi remercier nos deux invités, Philippe et Alexis, d'être passés donc dans Génération Sport. Vous revenez quand vous voulez. J'ai envie de vous dire dans Génération Sport. Faustin, Cédric, on se dit donc à la semaine prochaine.
On a une petite annonce aussi à faire.
Ah, dis-moi. Oh, pardon. Je l'ai complètement zappé, mais vas-y, je t'écoute.
C'est les Hawks qui organisent un événement ce week-end. C'est du 8 au.
Alors pour rappeler, c'est un club de roller. Qui joue à un très bon niveau national.
Voilà, qui vont faire un événement autour du club et autour d'un peu de la culture canadienne. Les dates, il me semble, c'est du vendredi au dimanche.
Je vais retrouver ça tout de suite. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. C'est tout un week-end en tout
c'est
cas.
C'est tout un week-end où il y aura des initiations, des matchs. Il y aura de la poutine.
Ouais.
Ça, c'est pas courant la poutine dans la région. Donc. Rien que pour ça, vous pouvez y aller. C'est entrée gratuite. Et si tu peux me donner le.
Dis-moi.
Le lieu, si
le lieu. Alors le lieu, je vais essayer de le trouver. C'est voilà. Alors c'est en partenariat notamment avec Canoc. C'est un petit festival, donc comme tu le disais.
Qu'il y aura aussi apparemment un concert. Enfin.
Le lieu, je ne l'ai pas. Salle de Bussy, à Angers. Donc voilà, pour ceux qui veulent y aller, ça va être très très sympa. C'est sur 3 jours, donc du 8 au 10 avril. On va vous laisser donc avec le générique et puis juste après vous pourrez retrouver une émission de Imaginaire et puis nous on se dit à la semaine prochaine.
jour où